Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blanc. Aujourd'hui, je reçois le docteur Patrick Durand qui a évoqué dans une première édition les EHPAD. Alors aujourd'hui, cher docteur, vous allez évoquer comment sont les EHPAD et quelles différences il y a entre EHPAD et aussi maison de retraite.
Christiane Blain, bonjour. Donc, nous avons effectivement parlé des EHPAD lors d'une précédente émission. Et il faut quand même apporter quelques idées sur le qu'est-ce que c'est exactement cet établissement.
Oui. Alors peut-être pour nos auditeurs qui n'auraient pas entendu la première émission, déjà EHPAD. Ça s'écrit E-H-P-A-D et ça signifie...
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Tout est dans cet acronyme, c'est-à-dire c'est un établissement, c'est-à-dire c'est une structure. Précisons tout de suite que la plupart des EHPAD peuvent recevoir 60 à 100, 120 et guère plus.
C'est déjà beaucoup parce que vivre en société sans personne. C'est quand même bien.
Oui, mais la plupart des EHPAD tournent autour de 60 c'est mieux, résidents. C'est mieux. Alors, on voulait aujourd'hui préciser quel genre de structure sont ces EHPAD. Alors, il y a des EHPAD qui sont dans l'hôpital. Beaucoup d'hôpitaux ont des EHPAD. Ça veut simplement dire que ces EHPAD ont une petite autonomie financière et de gestion et de s'occuper des résidents particuliers. Ce n'est pas un vrai hôpital. Non. C'est une structure, donc, comme une maison de retraite, mais qui est intégrée à l'hôpital.
Et alors là, il y a quand même moins de personnes.
On est toujours dans le même nombre.
Une centaine.
Souvent une cinquantaine. Souvent une cinquantaine. Donc ça, ce sont des structures qui sont hospitalières. Ensuite, il y a des structures qui sont soit publiques, soit privées.
Alors, grande différence,
parce qu'on va surtout avoir des différences financières entre les deux. Les structures publiques ont toujours des aides, et on va trouver des prix de journée, puisque quand vous rentrez dans un EHPAD, vous allez payer ce que vous payez, c'est à la journée. Il est calculé un prix de journée, qui est un prix avec le repas qu'on vous donne, l'hébergement qu'on vous donne, les soins d'hygiène et d'occupation des personnes que vous recevez. Donc tout ça fait un certain prix de journée. Et les prix de journée, bien sûr, vont varier d'un endroit à l'autre. Pour finir de parler des établissements privés, il y a des établissements qui sont lucratifs et d'autres qui sont non lucratifs, notamment les établissements qui sont gérés par des associations, par des sœurs dans notre région.
Oui.
Il y a dans l'Orne, nous avons pas mal d'établissements. Vous savez que C, par exemple, a toujours été un lieu cultuel. Donc il y a des EHPAD qui sont gérés par ces associations. Alors, association, loi de 1901, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de faire du bénéfice, hein, vous êtes non lucratif. Il peut y avoir aussi des fondations qui créent des EHPAD, où la fondation, vous savez que c'est hors fiscalité, et ça peut être créé par certaines grosses entreprises pour se libérer un petit peu de leur excédent de bénéfices. Voilà, on va le dire comme ça. Alors tout cela fait qu'il y a des prix qui sont différents. Alors, on parle en général de prix de journée, mais pour le résident, on va parler en mensuel. Et il y aura des différences de prix assez importantes, région parisienne et province. Et dans les provinces, il y aura des régions qui sont plus chères. Par exemple, sur le littoral méditerranéen, vous avez pris des prix de journée qui sont nettement plus élevés que si vous êtes dans le massif central.
Oui. Ouais. Voilà. Et quelle est la proportion d'établissements privés par rapport aux établissements publics? Dans l'Orne, puisqu'on connaît bien.
Oui, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est que les privés sont quand même beaucoup plus importants, établissements privés,
ah, oui.
Parce qu'il y a beaucoup de chaînes, on va dire. Vous savez, la demande en EHPAD est de plus en plus grande.
Mais oui, on n'entend plus que ce mot.
Voilà, et donc il y a beaucoup on va dire, un petit peu comme les chaînes hôtelières qui commencent à
comprendre que les gens vont vieillir,
voilà,
et qu'ils vont avoir besoin de construire.
On construit de plus en plus. On construit puisque la demande étant importante, il faut quand même avoir des lieux et où on vous accepte. Et actuellement, quand vous faites une demande d'admission, très souvent, il vous faut des mois avant de pouvoir être accepté.
Ah, des mois.
Oui, des mois. Des
aussi mois. Bien dans le public que dans le privé.
Oui, oui, puisque on manque un petit peu, on manque d'établissements, on manque de structures. Alors on en construit bien sûr, mais on manque de structures.
Et d'autant que les gens vont vivre encore plus vieux. Donc il faudra encore plus ces établissements.
Oui, ces établissements qui sont quand même un progrès pour le prendre en charge des personnes qui sont dépendantes et qui auparavant étaient moins suivies, même à domicile, qui étaient moins suivies qu'à présent. Moins suivies sur le plan de l'hygiène, sur le plan médicamenteux, sur le plan psychique, sur le plan bien sûr diététique, puisqu'en EHPAD, vous êtes nourri, hein, bien sûr.
Nourri et selon l'état de santé que l'on a, j'imagine.
Voilà, si vous êtes diabétique, on fera attention au sucre. S'il faut un régime sans sel, vous le ferez.
Oui.
Voilà, non. N'oublions pas, un EHPAD est quand même a été fait pour qu'il y ait une visée médicale. C'est pour ça que l'Agence régionale de santé signe un contrat avec l'EHPAD. Le contrôle médical est fait, alors qu'avant dans les maisons de retraite il y avait une maison de retraite avec médecin et d'autres sans médecin.
Oui.
À l'heure actuelle, un EHPAD a toujours un médecin et a toujours des infirmiers.
Oui, il peut y avoir combien d'infirmiers
C'est proportionnel au nombre de résidents.
Celui que vous dirigez
Alors il y a à peu près en permanence deux infirmiers par jour, tous les jours. Ce qui veut dire qu'il y a une rotation. Donc,
et la nuit?
Alors, la nuit, c'est le petit problème à l'heure actuelle. On peut arriver à avoir un infirmier ou une infirmière, mais c'est pas toujours le cas. Ce qui fait que la nuit, s'il y a un problème, très souvent, il y a appel au 15 pour savoir quoi faire. L'infirmier n'est pas toujours, il y a quelques EHPAD qui ont des infirmiers ou des infirmières pour la nuit, et actuellement il est question d'avoir au moins une infirmière pour deux, c'est en tout cas le plan du gouvernement, d'avoir une infirmière de permanence pour deux ou trois EHPAD.
Ah oui.
De permanence pour la nuit.
Oui, c'est ça. Donc on peut lui téléphoner, elle arrive aussi vite.
Voilà. Il y a toujours des aides-soignantes, donc il y a toujours une aide-soignante en permanence qui, à ce moment, va contacter l'infirmier. Et le dernier plan du gouvernement, c'est d'imposer d'avoir une infirmière de permanence pour deux à trois EHPAD.
Oui, parce que le gouvernement a l'air de vraiment s'occuper de ce problème-là.
C'est un problème parce que le nombre de personnes qui rentrent en EHPAD est de plus en plus important.
Et oui. Puisque nous vieillissons.
Puisque nous vieillissons et qu'il y a quand même une certaine difficulté à un certain âge de se mobiliser autant psychiquement que physiquement.
Oui. Vous voyez des malades plutôt psychiques ou physiques? Dans la majorité.
Non, il y a les deux, mais il est certain que, vous savez, la maladie d'Alzheimer est quand même un petit peu, un petit peu détectée plus tôt, importante. Donc, il faudrait mentionner qu'il y a des EHPAD qui sont spécialisés pour ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives, oui, c'est-à-dire deux grandes maladies, la maladie d'Alzheimer,
oui,
où on ne sait plus trop où on est, on ne sait plus ce qu'on fait, il faut une assistance très importante, et la maladie de Parkinson, où là aussi l'assistance permanente est souvent obligatoire.
Oui. Alors, moi, j'en reviens maintenant à ce que doivent payer les gens qui vont entrer dans cet EHPAD. Est-ce qu'il y a le public, le privé? Comment ça se passe?
Alors, comme on a vu, il y a une convention qui est signée entre l'ARS, le Conseil général et
l'ARS,
l'Agence régionale de santé.
Voilà.
Voilà. Cette convention impose de calculer son prix. Donc, l'EHPAD va proposer un prix qui va être accepté par l'Agence régionale de santé.
Là, vous parlez du public.
Je parle en général.
En général.
Je parle en général, même si c'est un privé. L'EHPAD nécessairement a un accord avec l'Agence régionale de santé. Et donc, il y a un prix de journée qui est imposé. Et très souvent, les personnes n'ont pas les moyens de payer ceci. Donc il va y avoir un appel qui va être fait au Conseil général et il y a des aides qui sont prévues. Alors dans les aides, la plus connue, c'est ce qu'on appelle l'APA, encore un acronyme,
oui,
l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est-à-dire qu'on va définir votre degré d'autonomie. En fait, on définit plutôt le degré de dépendance,
oui, c'est ça,
que d'autonomie.
C'est le contraire.
Et en fonction, voilà, le contraire. Et en fonction de cela, vous allez avoir droit à une certaine aide.
Ah, voilà.
Alors, le plus simple pour monter ces dossiers, c'est souvent de faire appel à une assistante sociale qui va établir votre degré de dépendance. On y reviendra peut-être, mais c'est ce qu'on appelle le GIR.
C'est-à-dire,
c'est le groupe interressources. C'est un acronyme simplement qui précise qu'on va chercher votre dépendance. On va la quantifier, votre dépendance. Alors,
ah,
la
oui,
dépendance, c'est est-ce que je suis capable de m'habiller tout seul? Est-ce que je suis capable de manger tout seul? Est-ce que je suis capable de me laver tout seul? Est-ce que je marche tout seul? Voilà.
Oui.
On va définir votre dépendance et on va définir ce qu'on appelle un GIR.
Voilà, on a compris ce terme maintenant.
Voilà. Et ce GIR va vous permettre d'avoir, de prétendre à une APA plus ou moins importante.
Voilà.
Alors, pour définir le GIR, il y a 6 niveaux. Le niveau le plus élevé en dépendance, c'est le 1. Le 1, c'est quelqu'un qui est vraiment...
Pas bien.
Oui, il n'a plus d'autonomie du tout, dans aucun acte. Aucun acte de la vie quotidienne.
Donc il faut presque une personne...
En permanence.
Voilà, c'est ça.
En permanence. Non seulement une personne, mais ensuite, il faut qu'il y ait l'entourage, c'est-à-dire, il faut préparer les repas, il faut...
Faire manger.
Oui, faire manger. Donc, ensuite, vous avez un GIR 2 qui est une perte d'autonomie complète, soit physique, soit psychique,
oui,
mais pas les deux. Ensuite, vous avez un GIR 3 où la personne, déjà, a une certaine mobilité, etc. Et jusqu'au GIR 6, un GIR 6, c'est quelqu'un qui est tout à fait valide. Mmh. Ce qui signifie que pour entrer en EHPAD, on ne vous prend pas, quand vous avez un GIR 6, on vous prend à partir d'un GIR 4. Il faut déjà que vous ayez une certaine perte d'autonomie pour que vous prétendiez...
Oui, ça semble logique.
Ça semble logique.
Et pour le patient et pour les médecins.
Pour tout le monde, oui.
Voilà, exactement. Mais je crois, cher docteur, que nous avons bien compris ce qu'est l'EHPAD. Je crois que, et je suis contente de savoir que vous reviendrez le mois prochain pour évoquer encore ces EHPAD, parce que maintenant, il y en a heureusement beaucoup dans les départements et dans l'Eure-et-Loire et l'Orne qui nous touchent particulièrement. Eh bien, nous reparlerons de cette situation. Un grand merci à vous et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.
Christiane Blain, au revoir.
Merci, docteur Durand. It's really too early this Wednesday morning. No birds in the sky, the neighbors are sleeping. You put on your tie, your pants are itching. It's 5 a.m, you got to go. You kiss your lady, you get in the flow. You always stay the same, even if you change your mind.